Rien n'a été fait. Malheureusement, les choses ont même empiré. Il y a toujours des gens qui meurent dans le cadre d'interventions policières. Il y a toujours des violences policières. Il y a toujours des contrôles aux faciès. Et plus généralement, il y a toujours un racisme d'État qui abîme des parcours de vie.
Ces images ne datent pas des manifs de ces derniers jours qui demandaient justice pour George Floyd, pour Adama Traoré et pour toutes les victimes de violences policières. Elles datent de 2015 et elles ont été tournées lors de cette marche, la marche pour la dignité, filmée ici par Révolution Permanente.
On voulait que ce soit l'occasion de valoriser, de porter ce sujet-là sur le devant de la scène. Il y a énormément de familles de victimes de crimes policiers qui nous ont rejoints parce que c'est un combat qu'elles partagent et parce que pour beaucoup d'entre elles, elles sont encore en train de lutter pour obtenir justice.
Aujourd'hui, Assa Traoré est enfin invitée sur les plateaux télé. On y parle des violences de la police, on y questionne le racisme. C'est même enfin devenu un débat national, mais ce débat, il a fallu l'imposer. Et rien que ça, ça a demandé des années de lutte et beaucoup d'énergie militante, comme celle déployée par exemple par Siham Asbagh. Les familles de victimes n'ont certes pas encore obtenu justice, mais cette sphère militante, autonome des partis politiques, a au moins imposé ses combats, ses mots, sur les plateaux, dans les partis, et c'est là-dessus qu'on va revenir aujourd'hui. On apprend ce matin dans Le Monde que Macron a sommé son gouvernement de faire rapidement des propositions pour améliorer la déontologie des forces de police. Les violences policières sont enfin discutées, il se pourrait même que le gouvernement fasse quelque chose pour essayer d'y mettre fin. Vous vous rendez compte? C'est d'autant plus surprenant que jusque-là, chacun s'évertue à ce qu'on ne puisse même pas prononcer l'expression « violence policière ». Sur Twitter, Ulysse, un utilisateur du réseau, a fait il y a peu un montage éloquent.
Je récuse le terme de violence policière.
Je tiens à le dire, il n'y a pas de violence policière en France.
Il n'y a pas de violence policière.
Non, il n'y a pas de violence policière.
Je récuse totalement ce terme de violence policière.
Moi, je me refuse à parler de violence policière.
Moi, je ne parle pas du terme de violence policière parce que j'ai totalement confiance dans la police et dans l'institution policière.
Je trouve assez insupportable quand on entend répression policière, quand on entend violence policière.
Circuler, il n'y a rien à voir. Et pourtant, la mort aux États-Unis de George Floyd a fini par rendre ce débat indispensable en France. C'est en tout cas ce que nous dit le récit médiatique. Ce qui se passe là-bas aurait inspiré une jeunesse influençable et des militants trop heureux de sauter sur l'occasion pour faire des amalgames. Dès lors, les éditorialistes et les responsables politiques vont se démener pour nous expliquer que les États-Unis, ça n'est pas la France, que les deux situations n'ont rien à voir.
Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce parallélisme qui est forcé entre ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui s'est passé en France entre Floyd et Traoré. D'abord, ce qui ne va pas, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, une bavure, toute bavure, n'est plus considérée comme une injustice faite à une victime, mais est considérée comme un tort fait à une communauté. Ce qui ne va pas aussi, c'est de partir du principe qu'Adama serait mort en raison de la couleur de sa peau.
Ce discours selon lequel en France, la police ne voit pas les couleurs aurait pu passer. Seulement, le caractère raciste du contrôle social exercé par la police républicaine en France est documenté depuis longtemps. Certes, on a appris il y a quelques jours seulement sur Street Press l'existence d'un groupe Facebook de flics rempli de commentaires racistes. Certes, c'est il y a peu que Mediapart et Arte Radio ont rendu audible ce que se disaient entre eux des flics de Rouen, enregistrement à l'appui.
Ce pays mérite une guerre civile raciale bien sale, il faut qu'il crève ces chiens.
Il reste quelques années avant l'effondrement. De toute façon, la guerre raciale est inévitable, hein. Ça c'est clair et net, hein. C'est juste une question de temps.
Bon bah sinon ça y est, je viens d'effectuer le paiement pour mon fusil d'assaut.
Et puis il y avait eu l'affaire de l'île Saint-Denis, révélée cette fois par Taha Bouaf, c'était fin avril.
C'est pas nager, comme ça, cool.
Mais à l'époque, le déni persistait. C'était des cas isolés, toujours très isolés. Il ne fallait pas poser la question du racisme dans la police. Vous connaissez la chanson, il y a du racisme en France, pas plus dans la police qu'ailleurs. Or, le mardi 2 juin et le samedi 6, de grandes manifestations ont eu lieu partout en France pour dénoncer ce racisme, cette police et cet État qui ne fait rien pour tenir ses flics.
Française.
Beaucoup de jeunes étaient présents et leur mot d'ordre était clair, leur slogan limpide. On a pu entendre parler de racisme structurel, de racisé, de noir, de non-blanc, autant de termes qu'ils n'avaient pas appris à l'occasion de la mort de George Floyd, qu'ils n'avaient pas pu entendre à la télé puisque ces mots étaient interdits, mais qu'ils connaissaient tout de même et qui permettaient à présent à une génération entière d'articuler une pensée politique de résistance. Si ces mots sont aujourd'hui connus et utilisés, c'est en grande partie grâce à des militantes comme Siham Asbagh, que je citais dans l'intro. La voici en 2014 face à Alain Juppé, elle était alors porte-parole du collectif Stop Contrôle aux Faciès et seule contre tous, elle employait déjà ces termes et tentait d'arracher de petites victoires.
Je voulais vous poser une question sur le contrôle aux faciès, sur ces discriminations racistes, structurelles que vivent un certain nombre de nos concitoyens. Répondez-moi très simplement oui ou non à une simple question. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui qu'il existe un racisme structurel en France ?
Bah évidemment.
D'accord.
Bah, c'est une question...
Alors là, il est possible que Juppé n'ait pas bien compris la question et se soit fait piéger. Il tente d'ailleurs de se reprendre un peu plus tard.
Je ne crois pas que les Français soient profondément
je
racistes.
Je ne parle pas des Français.
Il y a des situations qui les amènent à avoir des comportements racistes.
Je parle du racisme institutionnel.
Bon, il n'y a pas de racisme institutionnel.
Bah, vous venez de me dire, oui, à la question, il existe un racisme structurel. Et là, vous me dites, non, il n'existe pas de racisme institutionnel.
Vous êtes une redoutable rhétoricienne.
Et une infatigable militante. Comme Amal Bentounsi, que j'ai déjà cité ici. Elle aussi s'est battue depuis 2012 contre vents et marées pour obtenir 5 ans de prison avec sursis pour l'assassin de son frère.
Au départ, quand on avait appelé ce collectif le collectif Urgence Notre Police Assassine, on nous a pris pour des fous. Je dis, vous cherchez des problèmes. Mais en tous les cas, pour nous, il était important d'appeler un chat un chat.
La presse française parle d'un meurtre quand elle évoque la mort de George Floyd, mais se montre beaucoup plus frileuse quand elle évoque ce qui se passe en France. Il y a des mots à ne pas prononcer, des phrases qui peuvent vous coûter cher.
Camélia Jordana accuse la police de massacrer des hommes et des femmes en raison de leur couleur de peau, polémique instantanée.
Polémique après les propos de la chanteuse Camélia Jordana sur un plateau télé.
Sur la polémique du week-end provoquée par les propos de la chanteuse Camélia Jordana.
Oh, la polémique Camélia Jordana.
Donc là, est-ce qu'elle a eu raison ou tort? En tout cas, elle a fait le buzz. Oui.
Aujourd'hui, la parole se libère. Joe Wilfried Tsonga ou Omar Sy osent évoquer sans détour le racisme français et le sort qui est fait ici aux non-blancs. Certains leur reprochent de n'avoir pas parlé avant et de profiter de l'effet de mode pour aller dans le sens du vent, mais c'est que ceux-là n'ont pas compris que parler peut coûter cher. Judiciairement d'abord. Par exemple, le syndicat Unité SGP Police a annoncé qu'il allait porter plainte contre les propos de Camélia Jordana. On verra ce que ça donne. Médiatiquement ensuite, parce que quand on l'ouvre, on le paie. Écoutez Thierry Mariani défendre sur France Info une pétition qui demandait à ce qu'on interdise à Camélia Jordana de participer à la fête de la musique.
Et insulter la police comme ça, en expliquant qu'elle massacre les Français, et puis après l'inviter sur le service public, c'est quand même, excusez-moi, un affront pour tous les policiers.
Quand les racisés l'ouvrent sur ces sujets sensibles, ils le payent cher. Et c'est ça aussi le racisme structurel. Ils le payent plus cher que les autres, car ils sont toujours suspects de sécession communautariste. Suite à l'intervention de Siam Hasbag face à Juppé, celle-ci a été qualifiée par Bruno Roger Petit de militante communautariste. Une étiquette qui pèse lourd et qui est construite pour faire de vous quelqu'un de sulfureux, qu'on invitera beaucoup moins sur les plateaux. Vont d'ailleurs être qualifiés de communautaristes toutes celles et tous ceux qui défendent un antiracisme politique porté par les victimes du racisme. On les accusera alors de souhaiter pour la France un modèle à l'américaine et de plaquer sur notre beau pays universaliste des grilles de lecture qui ne seraient pertinentes que pour les États-Unis.
Mais si on se tourne outre-Atlantique, c'est parce que ici, l'histoire de nos luttes a été spoliée. On ne la connaît pas. Je veux dire, ce n'est pas normal que quelqu'un comme moi, je suis de la génération 86, découvre la marche pour l'égalité et contre le racisme, découvre les merveilleux combats qui ont été menés par nos aînés sur la double peine, sur les violences policières depuis des années déjà, sur les droits des travailleurs maghrébins et d'Afrique subsaharienne, etc. On découvre ça quand on entre dans le militantisme, alors que ça fait partie de l'histoire de France.
Ça, c'était en 2015, à l'occasion de la marche pour la dignité dont je vous parlais un peu plus tôt, une marche qui faisait écho à la fameuse marche de 83, mais qui n'était pas une marche commémorative. Il s'agissait pour ces militants de se réapproprier le combat antiraciste dont ils s'étaient sentis spoliés.
En 2013, c'était les 30 ans et je me souviens, je m'étais imposée dans une manifestation de SOS Racisme où je m'étais mis en tête de cortège avec Farid, avec les familles, avec quelques familles, avec le drapeau crime policier, crime raciste. 30 ans après, rien n'a changé. Et SOS Racisme, ça leur a pas plu à ce moment-là. Et ils nous ont appelé le service d'ordre. Et je leur ai dit simplement que nous, 30 ans après, on avait la légitimité d'être là et d'être en tête de cortège. Et ils nous ont arraché notre banderole.
Aujourd'hui, les banderoles fleurissent à nouveau. Elles sont toujours aussi subversives, mais on les voit à la télé. On voit les militants des quartiers jusque sur BFM qui s'est retrouvé à inviter ces derniers jours Youssef Brakni, Almami Kanouté et bien sûr Assa Traoré, ce qui était inimaginable il y a encore 5 ans, quand Amal Bentounsi était encore en plein combat judiciaire.
Et moi, j'ai beaucoup d'espoir que si on s'y met tous ensemble, qu'on va y arriver et qu'à un moment donné... On nous entendra et il va falloir qu'on s'organise, mais c'est maintenant ou jamais.
Elles se sont organisées avec les autres familles de victimes, avec les militants. Elles ont parlé aux médias qui voulaient bien les entendre, à Click, à Mediapart, au Bondi Blog, à Street Press et quelques autres. Et c'est grâce à ces femmes, en première ligne aujourd'hui, que les luttes antiracistes rassemblent largement, enfin, autour de mots d'ordre clairs. C'est grâce à leur travail que j'ai pris conscience de beaucoup de choses et c'est grâce à leur travail que ces débats ont avancé dans les médias, dans les partis politiques et bien évidemment dans la jeunesse. J'ai bien sûr oublié de citer beaucoup de gens, mais ils et elles se reconnaîtront. Force à vous, hein, durant toutes ces années, c'est vous qui avez pris au sérieux les valeurs d'égalité dont se réclame ce pays, malgré tous les vents contraires. La leçon de cette histoire, c'est que la lutte paye, mais qu'on a tendance à oublier qui l'a menée. Si demain on se retrouve avec une loi qui contrôle vraiment la violence raciste dans la police, cette loi portera le nom du ministre ou du député qui l'aura présenté à l'Assemblée. On écrira dans les manuels que cette loi a été votée sous Macron et on oubliera peut-être de retenir les noms de Sia Masbag, Amal Bentounsi et Assa Traoré. Voilà pourquoi je voulais leur consacrer cet épisode. Soutien, respect et à lundi prochain.